L'autre chose, c'est au sujet du dimanche que nous fêtons aujourd'hui, le dimanche du triomphe de l'orthodoxie. Le triomphe de l'orthodoxie, c'est évidemment le triomphe de la foi orthodoxe. C'est une fête qui a été instaurée lorsque on a rétabli le culte des icônes. Vous savez tous ça. Mais pourquoi en faire un triomphe de l'orthodoxie? Ça pourrait être le triomphe des saintes icônes. C'est parce que la vénération des icônes est en quelque sorte le sceau final de l'incarnation. Si le Verbe de Dieu s'est fait homme pour être avec nous, s'il a envoyé l'Esprit Saint qui travaille aujourd'hui encore, cela veut dire que la vie divine jaillit, y compris dans les éléments, dans tous les éléments de la création. Et puisque le Christ étant homme est aussi fait de la pâte de la glaise que lui-même avait créée, puisqu'il s'est fait créature tout en étant créateur, par voie de conséquence, tous les éléments de la création sont appelés par vocation à recevoir les énergies divines, à recevoir en elles la vie de Dieu, chacune à sa manière, chaque élément de la création en fonction, si je peux l'appeler, j'extrapole un petit peu, mais un peu chacun selon ses charismes. Ainsi, le pain et le vin sont créés, transfigurés, pour devenir corps et sang du Christ. Les icônes sont bien la manifestation de la présence de ceux qui sont inscrits sur les icônes. Mais on ne va pas se mettre, et ça s'est fait quelquefois, mais ça c'était une hérésie, on ne va pas se mettre à gratter de la peinture d'icônes en prétendant communier à celui qui est représenté sur l'icône. Ça s'est fait, mais c'est pas, si je puis dire, on va pas prendre non plus le pain et le vin consacré pour le mettre sous nos yeux, pour le regarder. C'est une nourriture, c'est pas un objet d'observation, de contemplation, même si nous savons qui est dedans. Inversement, la présence divine est manifestée à travers les icônes qui sont faites pour être regardées. C'est une nourriture à partir des yeux, mais pas à partir de la mendication. Les saintes écritures, c'est pareil, les saintes écritures sont aussi la participation au Verbe divin, la parole divine. Mais on ne va pas manger la Bible sous prétexte de pouvoir communier avec Dieu. La Bible, les saintes écritures sont faites pour être lues et comprises, pas pour être avalées, physiquement parlant, etc. Mais le triomphe de l'orthodoxie n'est pas simplement le triomphe du culte des rendus aux icônes. C'est le culte rendu à celui qui est l'icône par excellence, c'est-à-dire le Christ. Seul le Christ est en plénitude l'icône du Père. Et c'est le Christ que non seulement que nous vénérons, mais que nous adorons. Mais le triomphe de l'orthodoxie, c'est en plus, ou abouti, ou conduit, au triomphe de non seulement de notre reconnaissance, c'est-à-dire c'est pas simplement de notre foi, mais à la réalité ou à la recherche, je ne sais pas comment dire, de cette communion, donc de cette compénétration de Dieu et de l'homme, qui est le but de la vie chrétienne et le but de toute vie, en fait. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit uni à Dieu, et pas simplement les orthodoxes et encore les meilleurs, et toute l'humanité et toute la création. Donc le triomphe de l'orthodoxie, c'est cette compénétration des énergies divines, de ce qui en Dieu est communicable à toute la création et à l'homme en premier lieu, puisque l'homme est le prêtre du cosmos. C'est la raison pour laquelle l'évangile d'aujourd'hui était l'évangile où on voit notamment le Christ qui dit à Philippe, viens et suis-moi. Le triomphe de l'orthodoxie se résume en quelque sorte à cette phrase, viens et suis-moi. C'est-à-dire que le but de notre vie, le but de notre christianisme, la raison d'être de notre conversion, enfin, ou de notre baptême, notre conversion à l'Église, que ce soit à l'âge de 3 jours ou plus tard, c'est de suivre le Christ. Et suivre le Christ, si c'est un triomphe, ne consiste pas simplement à croire en lui comme on croit que la Terre est ronde, ce qui est contesté par certains maintenant, ou de croire que, je sais pas, que le soleil est une boule de feu, je ne sais pas quoi vous inventer. Il ne s'agit pas simplement d'une croyance, d'une l'acceptation d'une certaine philosophie, disons, d'un certain regard sur le monde, mais c'est une volontaire adhésion vivante à quelqu'un qui est le Christ, lui-même uni à celui qu'il a appelé son Père, donc le nôtre, et à l'Esprit-Saint qui nous a envoyés pour que cela puisse prendre vie et prolonger sa présence sur terre. Suivre le Christ, c'est entrer dans le mystère de sa vie. C'est apprendre à faire passer sa vie dans notre vie, ou à partager, nous, volontairement, sa vie. Pas simplement à croire, mais vivre avec. Ceci implique une attention quotidienne, une attention de minute après minute. C'est un état d'être qui se concrétise par des moments un peu plus forts que d'autres. La liturgie, par exemple, mais pas exclusivement. La prière aussi, la lecture spirituelle aussi, les actes de bonté aussi. Mais qui nous font nous rappeler avec qui on vit, ou qui vit en nous, et de nous faire désirer et accomplir autant qu'il est en notre pouvoir, de partager la vie de celui que l'on est censé aimer. L'amour est un apprentissage, c'est une éducation que l'on reçoit de ses éducateurs d'abord, mais que l'on reçoit surtout par la grâce de Dieu, par la vie de l'Esprit-Saint, auquel il faut demander d'apprendre à aimer d'une manière autre que affective. Suivre le Christ, c'est, avec ce que l'on peut présenter comme force, qu'on peut avoir comme force, et malgré nos indignités, c'est vouloir partager sa vie. de faire les choses pour lui et en son nom. J'ai un gâteau, c'est un exemple, que je veux donner à Clotilde. Je peux lui donner par amour personnel, par affectivité, parce que j'aime bien Clotilde. Tu le veux ou tu le veux pas? Tu le veux pas. Ça, c'est humain. C'est déjà pas mal. Faut mieux ça que de lui flanquer deux baffes. Hein, quand elle ne les mérite pas. Mais je peux le faire aussi avec une autre attitude intérieure. Parce que elle représente le Christ pour le Christ. Je lui donne de préférence à elle alors que moi, j'ai envie de le manger. Ce n'est pas un sacrifice à proprement parler, mais c'est une préférence d'amour. Je préfère Clotilde, donc, lui faire plaisir, que ma propre gourmandise et mon plaisir personnel. Ce qui nous fait aller, certains chrétiens qui sont appelés, qui sont conduits, à accepter, par exemple, le sacrifice de leur vie par le martyr. Nous fêtons aujourd'hui 40 martyrs volontaires, dont un encore plus volontaire que les autres, parce qu'il était parmi les bourreaux. Et il a choisi, voyant que l'un des futurs martyrs était en train de renier son martyr, donc le Christ, a pris sa place volontairement pour compléter le nombre de 40. Pourquoi ils souffraient ça? Ils souffraient ça parce qu'ils aimaient le Christ. Ils se jetaient avec lui, ils se jetaient en lui. Et il y a, ce qui pour moi demeure encore un mystère, il y a, quand on lit les vies des saints, une évidente réciprocité. Les martyrs supportaient leur souffrance par amour pour le Christ, mais il semble que c'est exprimé comme ça, en tout cas dans presque tous les cas, et il semble que le Christ en eux prenait les souffrances et les soulageait d'autant, ce qui est expliqué par quelquefois quand on voit qu'ils sont plongés dans une fournaise, une rosée qui vient les rafraîchir, c'est-à-dire que le Christ prend et les soulage. Et quand Saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », c'est ça l'orthodoxie, c'est ça le triomphe. Orthodoxie, entendez pas comme la constitution de l'Église, mais comme étant le centre, l'essence de la vie avec Dieu. Donc, effectivement, de l'orthodoxie, de la voie droite. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi ce dimanche de triomphe de l'orthodoxie est célébré le premier dimanche de carême. D'abord parce que quand on a favorisé la vénération définitivement la vénération des icônes, j'ai produit le premier dimanche de carême, donc c'est resté comme une date anniversaire, si je puis dire, mais aussi parce que c'est cette réalité là qui donne le sens à notre carême. Si on se prive d'un certain nombre de choses, et si parallèlement on insiste sur d'autres choses, notamment la charité, la communion les uns avec les autres, la prière amplifiée, et ça, c'est parce que le but du carême, finalement, qui n'est que le reflet de toute notre vie chrétienne, c'est de nous rapprocher de Dieu, de préférer la gloire de Dieu, de préférer la vie de l'au-delà plutôt que cette vie, la vie matérielle, affective, intellectuelle, sociale, la vie selon ce bas monde. Et si nous acceptons de voir ainsi le triomphe de l'orthodoxie, nous nous préparons à la mort. C'est-à-dire que si on entre dans ce mystère-là, nous nous rendons compte que la mort est la grâce ultime qui nous est faite pour nous purifier de cette vie qui constamment nous attire par le bas, nous attire par les passions, qui nous fait souvent préférer cette vie d'ici-bas plutôt que de la vie de l'au-delà. Et avec la mort, enfin, on est libéré de cela, le Seigneur nous purifie et on accède à cette liberté complète des enfants de Dieu qui sont dans le royaume des cieux, où il n'y a plus, comme dit l'Office, ni douleur, ni tristesse, ni gémissement, ni douleur, ni etc. Mais enfin, on est l'extase perpétuelle. Le triomphe de l'orthodoxie, c'est cette préférence qui était pour l'instant, tant qu'on est encore dans ce monde, qui est un exercice où on s'exerce à préférer le royaume des cieux plutôt que ce monde. Mais ça doit être un exercice concret, quotidien, j'allais dire de chaque instant. Notre vie chrétienne consiste justement à toujours faire abstraction de ce monde, à l'assumer quand il faut l'assumer, mais en faire abstraction, le dépasser, et tout en ayant les pieds sur terre, d'avoir le cœur, ou la tête, si vous préférez, au ciel. Il est possible pour tous, sans aucune exception, il est possible de vivre déjà des réalités du royaume des cieux. On n'est pas forcément en extase, en perpétuel, à ne pas manger, pas boire, prier en permanence et voir le ciel, voir le monde illuminé, comme ça nous ferait plaisir de faire. Il n'est pas forcé d'en arriver là, mais il faut manifester toujours sa préférence. Qui j'aime ? Ça se résume à ça. Qui j'aime ? J'aime Dieu ou j'aime le monde ? Et notre ascèse, c'est toujours un choix momentané, jamais absolu et jamais total, hélas. Mais c'est toujours un choix de vivre aujourd'hui et maintenant dans un au-dessus de notre condition, dans l'autre monde, dans le monde du royaume royaume des cieux, qui n'est pas pour autant délaisser nos obligations de ce monde. La charité, le soin des autres, notre survie à tout point de vue est aussi une nécessité, sans quoi on n'aurait qu'à se suicider. Mais tout en assumant notre vie concrète et nos relations les uns avec les autres, on vit en même temps une autre condition. On vit notre condition spirituelle. C'est pour cela, notamment, non seulement que le jeûne est recommandé et présenté comme un exercice, une ascèse veut dire exercice, n'est-ce pas, pendant le carême ou à certains jours de la semaine, tout au long de l'année. Non seulement cette ascèse-là nous est recommandée, mais c'est la raison pour laquelle la prière nous est indispensable. La prière ne consistant pas à faire des demandes à Dieu, qui sait fort bien de quoi on a besoin, il est bien placé pour le savoir, et il nous a recommandé justement de ne pas lui demander ces choses-là, de ne pas nous soucier de ces choses-là, mais de demander qu'une chose, de vivre un autre niveau, de vivre autre chose, et de taire nos besoins, de taire nos soucis, même les plus légitimes, pour passer du temps, qui est la seule chose qui nous appartienne, pour passer du temps exclusivement avec Dieu. Par amour pour lui, amour ressenti ou voulu, pas forcément senti psychologiquement, mais où on se présente devant et on passe un moment avec lui. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 6 heures, si vous voulez. Enfin, 24 heures. Notre vie chrétienne, c'est ça. Apprendre à vivre, apprendre à découvrir en soi un autre niveau d'existence et de progresser, d'essayer de progresser avec la grâce de l'Esprit-Saint pour expérimenter cet autre niveau d'existence qui est le royaume des cieux, lequel est présent à notre portée à tous, aujourd'hui, ici et maintenant. Le royaume des cieux n'est pas une réalité que l'on espère, c'est une réalité que l'on expérimente. Il n'y a pas besoin d'être un grand saint, si je puis dire, c'est-à-dire, plus exactement, il n'est pas nécessaire d'arriver à la perfection morale, vertueuse, encore que ce soit recommandé. Il n'y a pas besoin d'arriver là. Tout le monde peut acquérir cette double conscience de notre existence ici et ailleurs. Certains ont déjà entendu cet exemple de ma bouche d'un chapiteau roman qui représente un saint, S-I-N-T, sous la forme d'un vieillard avec un visage caractéristique, pas de la vieillesse, mais qui est le visage de cette personne-là, chauve, avec une longue barbe, voûtée par les ans, et s'appuyant sur une canne qui a la forme d'une croix. Donc elle s'appuie en fait sur la croix du Christ, bien sûr. Et cet homme porte sur ses épaules un homme jeune, lui, avec le même visage, mais avec des cheveux, avec une barbe beaucoup plus courte, je ne sais même pas s'il y a une barbe. C'est la même personne, mais plus jeune. Ça représente le saint, c'est-à-dire celui qui vit au-dessus de sa propre condition. On vit notre condition en nous appuyant sur la croix du Christ. Notre condition humaine, elle est lourde, elle est difficile, et seul on ne peut pas la porter. Il faut encore s'appuyer sur la croix du Christ, c'est-à-dire sur la foi, sur l'orthodoxie, comme je la définissais un peu tout à l'heure. Mais cette force que nous donne la croix permet d'avoir au-dessus de nous notre même personne qui vit une autre condition. On vit les deux à la fois. Et plus on avance en maturité, en âge, même si notre vie ne dure que quelques jours, ça, mais il y a un mystère qui dépasse notre l'expérience intellectuelle, si je puis dire, la conscience intellectuelle, il y a cette réalité de pouvoir vivre les deux niveaux à la fois, et c'est cela la grâce qui nous est donnée par le baptême et la crispation, par les sacrements, par la communion régulière, par le repentir sacralisé, consacré par la confession, par la prière, et finalement qui nous amène en toute douceur au passage définitif d'un état à l'autre par la mort, qui est une glorification. Amen.